Vous êtes sur RTL.
Deuxième invité d'RTL Soir, une grande collecte pour ne pas oublier, la directrice des Archives Nationales, Françoise Banat-Berger, est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Jusqu'au dimanche 11 novembre, date donc des commémorations du centenaire de l'armistice de la Grande Guerre, vous organisez une nouvelle grande collecte. Les Français peuvent amener des documents aux 80 services du réseau des Archives de France partout en France. Grâce à vous, la Première Guerre mondiale se montre à l'échelle humaine et s'écrit donc au présent.
Absolument, ça devient une histoire qui reste vivante. Cette grande collecte, en fait, son origine, elle date de 2013. Mmh. Et elle a d'ailleurs pour origine une initiative au niveau européen, puisqu'en fait, il s'agit d'une plateforme qui s'appelle Europeana, sur laquelle sont mis en ligne un certain nombre d'objets culturels numérisés. Et Europeana avait pensé à une grande opération sur la guerre de 14-18. Alors, plus généralement sur l'ensemble du territoire, hein, c'est-à-dire ce qui est piloté au niveau des Archives de France. Mmh. Ne serait-ce que la grande collecte de 2013, on avait à peu près près de 6400 contributions. 6400 sur l'ensemble du territoire, ce qui correspond à peu près à 250 000 vues numériques. Mmh. Et 678 fonds physiques qui ont été déposés ou donnés. Donc c'est quelque chose...
Déposés ou donnés, parce que les gens qui donc contribuent à tout ça ne sont pas obligés de vous donner les éléments. Vous les numérisez, vous les rendez.
Il peut y avoir d'une part uniquement effectivement de la numérisation et nous n'avons que des vues numériques. Et parmi ce qui est déposé sous forme physique, il peut y avoir plusieurs statuts, donc soit le don, mm-hmm. soit le dépôt. Mm-hmm. Donc, par exemple, aux Archives nationales, nous, on a reçu à peu près 450 contributions, dont un tiers de dons. C'est des moments de grande émotion sont passés autour de cette grande collecte et qui continuent à se passer. Pourquoi cette grande collecte, ça marche autant? C'est parce que la guerre de 14-18, c'est quand même un événement inouï.
Évidemment.
Et du coup, aujourd'hui, leurs descendants, en fait, viennent avec le sentiment très fort qu'il y a un devoir de transmettre cette mémoire qui soit a été reçue, parmi les choses, on y reviendra, produite pendant la guerre, soit les survivants eux-mêmes ont repris leur récit ou eux-mêmes ont fait leur souvenir, ont écrit leurs souvenirs après-guerre, voire même de la constitution de livres d'or dans les familles, dans les années 20-30, etc.
C'est ça qu'on vous remet Absolument. Une part d'intime, en fait.
Absolument. On a d'une part des documents officiels. Par documents officiels, j'entends notamment beaucoup les livrets militaires, mmh. Les avis de décès, les citations, les avis de pension. On peut avoir aussi des carnets, des bons de ravitaillement. On a aussi quelques objets qui sont arrivés dans les services d'archives. Par exemple, nous, on a récupéré un sac de jute, mais ça peut être aussi, par exemple, des douilles qui sont sculptées, gravées,
qui ont été faites.
On a reçu ce genre de choses. On a aussi reçu un herbier, ce genre de choses. Après, le très gros, c'est ce qu'on appelle la correspondance.
C'est ça.
Alors, la correspondance, ça peut être beaucoup de cartes postales, ça peut être des cartes militaires. Mmh. Après, on a aussi ce qu'on appelle les cartes, on a pas mal de cartes dites humoristiques, parce que l'humour fait partie, en fait, du quotidien des soldats pour justement permettre de baisser la charge émotionnelle qui est très forte.
Il y a l'humour aussi.
Oui, il y a l'humour. Au-delà des cartes postales, on a beaucoup de photographies, à quoi ça ressemblait, comment c'était.
Est-ce que vous avez des récits, concrètement? Est-ce que vous avez des récits qui racontent, je ne sais pas, la résignation, difficulté,
au-delà de ces...
la douleur? Est-ce que vous avez ça?
On a effectivement des récits, et c'est probablement là qu'on va trouver le contenu le plus riche. Mmh. Je peux citer quelques extraits.
Allez-y.
Une correspondance d'un soldat qui s'appelle Vitas et qui est mort à la fin de l'année 14. Et par exemple, dans le quotidien, tout simple, sur l'hygiène, il dit à sa femme « Pense donc, ma chérie, 7 jours dans le bois sans pouvoir me débarbouiller, tu ne peux te figurer ce genre de vie. Et cependant, nous sommes tous très gais, on rit, on blague et on se trouve à 200 mètres d'ébauche. » Le même Vitas, il écrit à sa femme, toujours. « Je t'ai demandé de me faire parvenir d'urgence par la poste une camisole de laine et un caleçon de laine. Si le paquet n'est pas parti, tu pourrais ajouter 2 paires de chaussettes de laine, neuves bien entendu, et un peu de chocolat. » On rappelle que l'année 1916, c'est l'année où il y a le plus plu de toute cette période-là, et que l'hiver 16-17 a été le plus rigoureux du siècle, on imagine. Le même dit « Si tu me voyais ratatiner dans mon trou, tu ne pourrais t'empêcher de rire. Nous sommes dans de vrais terriers, et tu sais si j'enfonce la tête quand j'entends arriver un obus. Quelle vie, à quand la fin? Si seulement nous étions bien sûrs de rentrer avec nos 4 membres. » Il n'est pas rentré, lui. Il dit encore « Aujourd'hui, notre compagnie est de garde et toute cette après-midi, je n'ai rien à faire qu'à t'écrire et à penser à chez nous. Comme je suis heureux de me retrouver parmi vous par la pensée. Mmh. Un autre, je conduis, 4 octobre 16, je conduis la corvée au ravin de la mort, paysage sinistre qui donne l'impression d'un cataclysme, pluie toute la journée. 14 octobre 16, attaque, j'assure le passage au ravin de la mort, canonnade infernale et défilé des blessés, vision d'enfer dans le tintamarre, le soir marmite, dont une me couvre de terre dans le boyau.
Racontez-moi, pour conclure, quand les familles viennent vous remettre ou ces lettres ou ces documents que vous avez si bien décrits, ces moments d'émotion, parce qu'ils participent à l'histoire nationale en vous les remettant ou en vous les donnant.
Oui, finalement c'est parfois très compliqué, il y a trop d'émotions pour que par exemple ils acceptent tout de suite de donner.
C'est ça.
Donc en fait ils vont dire, donc là on numérise mais on reprend parce qu'on y tient trop. Mm-hmm. D'autres à l'inverse vont dire les déposer dans une institution c'est gage qu'ils soient conservés dans des bonnes conditions et surtout mis en relation les uns avec les autres et qui acceptent ça. Donc en fait il y a beaucoup de démarches différentes, surtout beaucoup de dialogues. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé en ce moment une exposition numérique de ces 20 000 images, on en présente 300, qui documentent en fait aussi bien la guerre en action que vivre et survivre, soutien du moral, épreuves, etc.
Donc ça c'est dans une exposition.
Et cette exposition, elle est faite pour les donateurs. Et dans le livret qu'on a fait pour cette exposition, on a repris tous les noms, les uns après les autres, des soldats qui apparaissent à travers ces contributions et tous les noms des donateurs qu'on invite demain soir. D'ailleurs, on fait une cérémonie pour inviter tous les donateurs pour rendre hommage justement à tout ce qu'ils ont contribué à amener et qui est d'une richesse infinie.
Question pratique, jusqu'à samedi, on peut venir vous déposer des choses ?
Vous pouvez venir vous déposer des choses samedi toute la journée, et puis tous les jours et les semaines et les mois et les années qui suivent, parce que depuis 2013, nous ne cessons d'avoir en fait des dons qui arrivent ou des dépôts qui arrivent au fil de l'eau, et évidemment qu'on accepte, il n'y a évidemment pas de limite.
Merci beaucoup Françoise Banaberger de nous avoir fait partager donc vos archives. Merci à vous.